constat partagé, d'ailleurs, vous avez tout à fait raison de les mettre bout à bout, c'est que ce dont la société a besoin aujourd'hui, ça n'est pas à proprement parler d'un supplément de croissance dans la production de biens matériels, mais a besoin de communautés. Donc oui, les deux bouts font un peu le même constat et en tirent les mêmes implications. Que répondre à ça? Moi, je réponds un peu différemment. Je dis, il faut ne pas mettre la charrue avant les bœufs, et bien comprendre que la croissance n'est pas un but. J'ai envie de dire, c'est presque une conséquence de vivre dans une société harmonieuse. Il faut impérativement fixer des normes d'exigence psychiques pour les individus, écologiques pour l'environnement, et ne jamais transiger au nom de la croissance avec ces exigences-là. Une fois que ces normes sont posées, que la croissance soit, si l'inventivité des humains, qui est considérable, arrive à nous offrir d'autres choses qui soient respectueuses de notre environnement, de cette civilisation qu'on veut construire et de notre intégrité psychique, très bien. Le risque, en effet, que dénoncent en creux, et je les rejoins, les courants que vous dites sur ce point, c'est que pour atteindre ce supplément de croissance dont on voit la recette au mot de la société, si pour les atteindre, on aggrave le mal en mettant en péril, au fond, l'intégrité psychique des gens, en augmentant le niveau de stress et d'insécurité économique, alors que l'insécurité économique est le mal que la croissance est censée combattre, alors effectivement, on fait fausse route. Je pense que c'est ça le terrain sur lequel on peut s'entendre pour faire advenir quelque chose qui ne sera pas une société post-matérialiste au sens ordinaire du terme, mais qui correspond à l'aspiration des gens, qui est de faire passer la qualité de la vie avant la quantité de biens. Bon, dont on ne voit pas advenir de nouveaux éléments. Si on nous avait inventé à la place des voitures, je ne sais pas quoi, des aéronefs, peut-être qu'on aurait été tenté de le faire. Mais ça n'est pas ce qui advient. On a des supports qui permettent de voir 15 fois le même film. Bon, on a une nouvelle société de consommation avec les séries télévisuelles. Bon, formidable. Mais on ne peut pas dire que la société a accouché, à part le smartphone, qui est très sympa, mais dont tout le monde est déjà équipé. On ne peut pas dire qu'il y ait des biens nouveaux qui fassent rêver. Donc, c'est sans doute le fait que ça n'est pas là qu'est la demande sociale dans de nouveaux biens, mais bien dans la façon d'organiser notre société.
Lorsque l'homme contemple l'infini, avant il en attendait un surplus de vie de l'au-delà, puis un jour l'idée de pouvoir le conquérir, cet infini, aujourd'hui qu'il a pu tendre quelque part technologiquement vers la découverte aussi de ses conscients ou inconscients infinis, est-ce que nous ne sommes pas précisément dans le mal sur le mal, c'est-à-dire que puisque l'homme est capable de tout, aller sur la lune demain ailleurs, envoyer des sont très loin, il y aura toujours une solution à tout, alors pourquoi s'en faire?
Alors ça, c'est évidemment le risque de penser que l'homme va nécessairement trouver des réponses technologiques aux problèmes auxquels il est confronté. Ça n'est pas vrai. Le célèbre Jared Diamond a publié un livre dans lequel il a montré le nombre, enfin il a fait l'examen de toutes ces civilisations qui sont tombées faute d'avoir trouvé une solution au problème écologique. Le problème du monde contemporain, c'est qu'on n'a plus qu'une seule civilisation. C'est en ce sens que le monde est clos dans le titre de mon livre, et que si elle tombe, on tombe tous collectivement. Pour donner quelques ordres de grandeur, pour éviter un réchauffement climatique qui dépasserait les 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, il faudrait, si j'en crois les experts, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Or, la production mondiale, compte tenu du rattrapage des pays émergents, pourrait être multipliée par 3. Donc il faut diviser par 6 le quantum par unité produite des émissions de CO2. Bon, c'est un défi considérable. Est-ce qu'on va le tenir? On peut être optimiste, on peut être pessimiste. Moi, malheureusement, je suis en train de basculer dans le pessimisme. J'utilise cette métaphore, je crois, dans le livre, qui est de dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de dépressif d'arrêter de fumer, même si c'est bon pour sa santé. Je crois que tant que nos sociétés resteront dépressives, pour toutes les raisons dont on vient de faire l'inventaire, demander aux individus, tout seuls, de se hisser au niveau de l'espèce est un saut impossible. Il faut passer par une étape intermédiaire, qui est de l'individu dans la société, et de la société au niveau de l'espèce, c'est-à-dire des exigences climatiques. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que ces discussions ne sont pas disjointes. Il faut d'abord réconcilier la société avec elle-même, si on veut qu'en même temps, et sans attendre évidemment, on arrive aussi à être à la hauteur des enjeux climatiques.
Post-communisme, post-capitalisme, post-libéralisme, enfin on est dans du post quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui on peut engendrer la société altruiste?
Moi, je pense que elle est là. C'est ça le paradoxe, et c'est ce qui me finit par me rendre quand même, malgré tout ce qu'on est en train de dire, optimiste. Les aspirations des gens, quand on les interroge, quand on fait des enquêtes, sont là-dedans. Quand on fait des enquêtes, pourquoi travaillez-vous ? pour accomplir quelque chose d'utile, pour voilà, avoir le sentiment que vous créez avec les autres une œuvre, ou est-ce que c'est votre salaire? Alors, ce qui vient en premier, c'est la sécurité quand même, mais en deuxième, c'est oui, l'envie de faire quelque chose d'intéressant. Et le salaire vient après. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer au salaire. Pour la plupart des gens, ça reste une condition d'existence compte tenu de tout ce qu'on vient de dire. Se loger, etc., c'est très compliqué. Mais ça, c'est à l'État, avec une politique du logement, éventuellement, de remédier à toutes ces choses-là, d'avoir une politique de civilisation urbaine, pour emprunter des termes de Edgar Morin. Mais je pense qu'il y a une aspiration à passer à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est d'abord de se convaincre collectivement et dans les entreprises que cette course au stress perpétuel n'est pas une solution, y compris pour l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, les entreprises sont parfois tentées de penser qu'en stressant toujours davantage leurs employés, ils vont les rendre plus productifs. Donner une échéance, il faut rendre le truc avant telle heure, c'est bien, ça les stresse, ça les motive. Mais c'est pas vrai. Les employés qui sont sous stress sont moins productifs. Toutes les enquêtes le démontrent. Quand on compare deux entreprises, l'une où les salariés disent oui, c'est bien, c'est agréable, et ceux où ils disent c'est l'enfer, celles où on dit c'est l'enfer ont de moins bons résultats financiers que celles où les gens disent, qui y travaillent, disent que c'est agréable. Donc il y a d'abord une révolution des mentalités à faire à l'intérieur des entreprises. C'est très compliqué, les syndicats ont certainement un rôle à jouer, mais ça fait partie de la conscience collective. Je ne vois pas pourquoi ce serait impossible. Et puis ensuite, quand on réfléchit à ce que l'État peut faire, à ce que l'État-providence peut produire, je crois qu'on tente à sous-estimer cette demande de sécurité économique. On pense que croissance, emploi, voilà, le cercle vertueux va s'enclencher et une fois qu'on aura retrouvé de la croissance, tous ces problèmes sont réglés. Non, il faut revenir sur le drame individuel des personnes qui sont aujourd'hui menacées par la numérisation du monde. On parle de plus de 50% des emplois qui pourraient être numérisés d'ici 2020 ou 2030. C'est donc un rouleau compresseur vis-à-vis duquel la sidérurgie des années 80 apparaîtra comme un petit blip sans importance. C'est par rapport à tout ça qu'il faut se préparer. On a les moyens, nous sommes quand même dans des sociétés riches, et on a les moyens de se préparer à ça, mais encore faut-il se convaincre que là est la priorité.
Peut-être que pour s'en convaincre, un des éléments consisterait à s'emparer de votre livre, en tout cas, et en vous remerciant d'être venu nous donner quelques pistes, Le monde éclos et le désir infini. Profitez-en pour reprendre aussi l'Homo economicus, par exemple. C'est chez Albin Michel, signé par Daniel Cohen. Merci.
Merci.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.